Interview. 1.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez certainement entendu parler de la mobilisation des intermittents du spectacle. En effet, le mouvement comprend beaucoup d'intermittents et d'intermittentes. Pour autant, l'accord du 22 mars ne limite pas ses attaques aux seules annexes de l'intermittence, les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. Nous sommes tous concernés. Intérimaires, saisonniers et saisonnières, chômeurs et chômeuses, salariés en contrat court, seniors, salariés de droit privé, cadres, nous subissons tous un recul de droit. Mercredi 25 juin, je me suis rendu à Cré à l'appel de la coordination des intermittents Drôme Ardèche à une action coup de poing. Une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous à 11h devant la médiathèque. Le mot d'ordre a été lancé. Nous partons occuper le pôle emploi de Cré, sans oublier de faire un petit détour par le QG de M. Mariton, que nous savons sensible à nos revendications. Arrivés au pôle emploi, nous avons pris possession des lieux en prenant soin de ne pas déranger le travail des personnes présentes et des usagers. Le cortège est arrivé à 11h30, rejoint quelques heures plus tard par d'autres personnes de la CODA, la coordination des intermittents Drôme Ardèche, venant de Valence. L'ambiance est restée cordiale tout au long de l'occupation qui aura duré jusqu'à 16h30, heure à laquelle une quinzaine de gendarmes ont évacué les 30 personnes encore présentes. J'en ai profité pour interviewer les porte-parole de la CODA afin d'éclaircir et de nous expliquer en détail la situation. Donc on se trouve au Pôle emploi de Cré pour une occupation des intermittents, des chômeurs et des précaires. Donc je suis en compagnie de Simon et de
Samuel.
Samuel, voilà, vous êtes tous deux.
On est membre de la coordination des intermittents et précaires de Drôme Ardèche.
Voilà. Alors, cette occupation a lieu parce que il y a eu un accord des partenaires sociaux et du MEDEF, un accord qui a été signé le 22 mars et qui va bientôt être agréé par le gouvernement.
Alors cet accord, c'est un accord qui est signé entre le patronat des grosses entreprises, de la CGPME, etc., le MEDEF, et des organisations syndicales de salariés qui ne connaissent rien à la précarité et qui risquent de sabrer gravement les droits de l'ensemble des demandeurs d'emploi, des chômeurs indemnisés, des chômeurs non indemnisés, de tous les régimes qu'ils soient, qui soient intérimaires, intermittents, chômeurs du régime général ou encore les autres annexes spécifiques comme par exemple pour les saisonniers. Et aujourd'hui, cet accord, il est sur le bureau du ministre du Travail, qui doit, lui, prendre la décision de l'agréer ou pas. Il a dit qu'il voudrait l'agréer. Aujourd'hui, il ne l'a pas encore fait. Voilà. Nous, on n'a pas l'intention de le laisser faire. On est assez déterminés là-dessus, parce que c'est une atteinte grave aux droits sociaux pour l'ensemble des chômeurs, des précaires, des salariés en CDD, des potentielles personnes qui se feraient licencier et qui sont aujourd'hui en CDI. Et ça, on trouve ça juste inadmissible en période de crise de faire encore une fois payer les plus pauvres. Donc on occupe effectivement ce Pôle emploi parce que Pôle emploi c'est un peu chez nous, on est des habitués, des fois on les rencontre plutôt au téléphone maintenant parce qu'il y a de moins en moins de rencontres humaines possibles, mais du coup on occupe celui-là à Cré aussi parce que c'est chez Mariton, et Hervé Mariton, député de la Drôme et maire de Cré, a déclaré que les intérimaires étaient des privilégiés. Alors j'aimerais bien savoir en quoi on est des privilégiés et en quoi les intermittents sont des privilégiés, en quoi les chômeurs sont des privilégiés.
Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tout ce qui paye l'ISF et la liberté d'entreprendre, et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse, pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF, car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible, et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible d'Adam Smith.
Concrètement, il change complètement la logique de l'assurance chômage. Aujourd'hui, l'assurance chômage, elle est là pour aider les plus précaires. Et là, ce qu'il nous transforme, c'est une individualisation des droits et des... Et ça s'appelle les droits rechargeables, c'est-à-dire que ça fonctionne encore une fois où les plus riches resteront les plus riches et les plus précaires resteront les plus précaires, voire même, parce qu'on voit ça, ce qui s'est passé en Allemagne avec les lois Hartz 1, 2, 3 et 4, c'est les plus précaires qui cotisent pour les indemnités des salariés à plus haut revenu. Donc c'est Robin des Bois à l'envers, en fait.
Un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que d'il me reste rien à la fin du mois. Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de foutre en l'air tout ce qui rapporte pas BZF et qui coûte cher en fonctionnaire. Et je me battrai contre la crise pour relancer l'activité. Je prendrai qu'on la délocalise partout où on peut l'exploiter. Quand je serai membre du MEDEF, je dirai que le libre-échange peut tout pendant que j'engrangerai les bénéfs. En embauchant à moindre coût, je serai pour un état régalien armé des lois de la police qui se tiennent main dans la main d'Adam Smith. Et je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que d'il me reste rien à la fin du mois.
Et donc cet accord, il n'est pas encore rentré en vigueur. Il doit rentrer en vigueur le 1er juillet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il doit signer avant le 1er juillet. Et donc nous, on est là prêt à tout faire pour empêcher cette signature. Il s'avère que... aujourd'hui, les plus faciles à mobiliser, c'est les intermittents, parce qu'on a moins de difficultés à se mettre en grève, etc., même si c'est jamais facile, même si c'est jamais simple, que des intérimaires, etc. Mais il y a aussi des intérimaires qui se mobilisent. On parle souvent du conflit des intermittents, mais des intermittents, des intérimaires, des chômeurs, des précaires, des salariés en CDD, des saisonniers, en fait, il y en a plein dans ce mouvement. Il y a des gens qui sont ici et qui sont des salariés précaires et qui ont droit à rien quand ils sont en période de chômage. Parce qu'ils ne sont pas indemnisés aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 6 demandeurs en emploi sur 10 qui ne sont pas indemnisés.
Pour abonder dans ce sur quoi parlait Simon, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cet accord qui doit être... qui, s'il est agréé, va être mis en place à partir du 1er juillet. Et si jamais il ne l'est pas fait, devient complètement caduc. Et nous, à l'intérieur de ce mouvement, depuis 2003, la coordination des intermittents et précaires a fait aussi des propositions, voilà, merci, sur une façon aussi de pouvoir faire des économies sans toucher ni au salaire ni à la protection sociale, mais qui donc depuis 2003 existent et n'ont jamais été vraiment prises en compte, n'ont jamais vraiment été écoutées. Et c'est ça aussi qui, à un moment donné, a été une des étincelles qui a pu faire prendre le mouvement. La deuxième chose, quand on parle des partenaires sociaux, là, encore une fois, je me place pour l'instant uniquement du point de vue des intermittents, des annexes 8 et 10, c'est que les personnes qui étaient autour de la table pour négocier les personnes qui ont signé, la CFDT et FO notamment, ne nous représentaient absolument pas et n'avaient pas connaissance de quelles sont les conditions de travail, etc. Et puis ne nous représentaient pas, tout simplement. Voilà, je me suis un peu perdu, mais...
Je pense qu'il est important de dire que aujourd'hui, ceux qui sont confrontés à travailler sur les questions de précarité, de chômage, etc., en dehors de la CGT, dans les 5 syndicats qui sont officiellement partenaires sociaux, etc., en dehors de la CGT, qui n'a pas signé cet accord-là, les autres n'y connaissent absolument rien. Et aujourd'hui, il y a d'autres syndicats qui existent, des associations de chômeurs, des coordinations de précaires, etc., des associations diverses et variées qui, eux, connaissent le sujet, qui ne sont pas invités à table des négociations. Mais là, il y a un plus gros scandale. C'est que c'est le patronat qui dicte ça. Et on ne parle pas de l'artisan boulanger du coin qui n'a droit ni à aucune assurance chômage, ni rien. D'ailleurs, ce serait peut-être des choses à discuter. On parle vraiment des patrons du CAC 40, du MEDEF, de la CGPME, qui sont plutôt des grosses entreprises. On a ces gens-là qui dictent le calendrier alors que ce n'est pas leur argent. Nous, les argents de l'indemnité chômage, c'est de l'argent de la masse salariale, c'est nos salaires, c'est notre travail. Et au bout d'un moment, c'est comment nous, en tant que salariés, on se déciderait de se répartir cet argent entre nous. Et c'est les patrons qui dictent ça. Et nous, on n'a pas à répondre à des gens qui ne sont pas des partenaires sociaux, qui sont des adversaires sociaux. C'est des requins, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est des irresponsables, des voyous. On voit encore que les gens sont... Les anciens numéro 2 du MEDEF avaient écopé d'une amende de 375 000 euros d'amende pour la caisse noire de l'UIMM. Voilà, c'est un... c'est un moment où on a des gens qui en face sont des idéologues, qui ne sont pas des gens qui ne répondent à aucune logique, il n'y a aucune question d'égalité, d'équité, de volonté. C'est vraiment des gens qui font de l'idéologie, qui est l'idéologie de la précarité, l'idéologie de la mise en concurrence des gens entre eux, dans le but de les pressurer encore plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent leur nez dedans. Ils mettent pas leur nez dedans pour gérer l'assurance chômage, ils mettent leur nez dedans pour précariser encore plus, parce que plus on crève la dalle, plus on accepte de les boulots de merde payer des miettes. Et ça, ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on résiste à ça, et ils veulent pas qu'on puisse avoir autre chose, et que nous, on soit assez grands pour prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, on a des propositions, effectivement, que ce soit pour les précaires, que ce soit pour les chômeurs longue durée, etc. Elles n'ont jamais été étudiées. Elles sont des propositions pour tous. Et je pense qu'il faut faire très attention. On n'est pas les intermittents contre les intérimaires, contre les autres à qui on demanderait des efforts. Nous, on estime qu'on n'a aucun effort à faire. On est les plus précaires, intermittents, intérimaires, chômeurs, saisonniers, etc. Et ce n'est pas à nous de faire des efforts. Aujourd'hui, il y a des dividendes qui continuent d'augmenter. Voilà, il y a des gens qui s'en mettent plein les fouilles. On n'a jamais autant exonéré de cotisations les gros patrons. On n'a jamais autant tapé sur les petits, et sur les petits patrons aussi d'ailleurs. Et par contre, nous, on voit jamais la couleur des efforts qu'on nous a demandé de faire depuis des années d'austérité. Aujourd'hui, on est à la limite de craquer au niveau social. Si cet accord il est signé, là, mais ça va péter. Voilà, je vois pas trop comment on peut dire ça d'autre. C'est vraiment là assumer Robin des Bois à l'envers. Et surtout qu'en plus, là où il y a une hypocrisie crasse, c'est qu'aujourd'hui, le ministre du Travail, quand il n'était pas encore ministre du Travail il y a quelques semaines, il disait qu'il fallait pas agréer cet accord-là. L'ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui disait mordicus, il faut agréer. Maintenant qu'il n'est plus Premier ministre, il se pose la question de savoir s'il faut agréer. C'est-à-dire, au bout d'un moment, dans quel camp se placent-ils ? Est-ce qu'ils sont, une fois au gouvernement, ils subissent des pressions, je ne sais pas, ou est-ce qu'ils sont, ils n'ont pas le courage des opinions qu'ils ont ? Tout le Parti Socialiste, aujourd'hui, c'est bien la question du Parti Socialiste, ils étaient tous mandatés, ils avaient tous signé les propositions du comité de suivi qui proposaient, juste sur la question des intermittents, exactement le contraire de ce qui a été voté. Et aujourd'hui, tous les élus du Parti Socialiste qui sont membres du gouvernement ou qui sont en soutien à ce gouvernement sur cette question-là, ils se renient, ils nous mentent. Voilà, ils font partie de notre élaboration de programme. Là, il y en a quand même qui refusent ça au sein du PS. Et ça montre bien qu'ils sont en plein contradiction. Ils disent un truc devant tout le monde pour se faire élire, et le lendemain, ils font l'inverse. Au bout d'un moment, nous, on ne peut pas supporter ça. Et des actions comme celle-là, on en fera. Des grèves sur les festivals, on en fera. Ça ne nous fait pas plaisir, clairement. Et par contre, on ne va pas lâcher l'action.
Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande ta fable avec là comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains través, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes te volent ton enfant. Pas imagine un mur et un poli. La rage, car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Pour quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri.
Donc on a bien compris qu'ils s'attaquaient à ces régimes spécifiques. Comment est-ce qu'ils ont été mis en place ces régimes spécifiques pour que ça les énerve autant aujourd'hui?
Alors en fait, l'indemnisation chômage, sur son principe, ça date d'il y a très longtemps. Ça date du XVIe siècle et ça s'est toujours construit contre les volontés soit de l'État, soit des patrons qui avaient intérêt à précariser la main-d'œuvre, à la rendre plus malléable. Et nous, on a réussi, entre guillemets, depuis des années à élaborer des systèmes d'indemnisation et les questions de l'indemnisation des précaires, des journaliers, etc. Ça a toujours été des questions qui se sont posées, grosso modo, depuis le XVIe siècle. Et à chaque fois, on a pu faire des avancées. Et depuis 1958, il y a le patronat qui est part active des négociations. Nous, ce qu'on estime un peu illégitime quand même. Enfin, on peut avoir leur avis, mais c'est pas eux de décider. Et surtout qu'en plus, ils ne représentent personne. Mais aujourd'hui, les annexes spécifiques, elles permettent à des gens d'avoir une solidarité, de pouvoir être indemnisés les périodes où ils ne travaillent pas. C'est-à-dire que le régime général permet ça aussi. Leur idée, c'est de faire passer des gens au régime général pour les assimiler à des chômeurs en CDI qui perdraient leur emploi brutalement à un moment et le temps qu'ils en recherchent un nouveau. Sauf que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, les gens qui sont En période de contrat court, il leur faut un système d'indemnisation spécifique, c'est-à-dire pouvoir compléter des mois qui ne sont pas entiers, etc., que ce soit un complément de revenu pour pas qu'ils se retrouvent dans les galères. Et aujourd'hui, quand on va les sortir, ces gens-là, les saisonniers, par exemple, du régime spécifique des saisonniers pour les passer au régime général, ils vont passer, dès l'instant qu'ils vont travailler plus de 10 jours dans le mois, à partir du 11e jour qu'ils travaillent, ils ont zéro indemnité chômage pour finir le mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils vivent un mois avec 10 jours de salaire. Et par exemple, s'ils travailleraient un mois de travail, si ça commence le 1er et que ça se termine le 31, eh ben, ou le 30, ils ont leur mois de salaire qui couvre leur mois. Mais le problème, c'est que ça commence le 15 et que ça se termine le 15, ben, ils ont un mois de salaire pour vivre deux mois parce que du coup, ils se font sucrer deux fois 15 jours d'indemnité. Et du coup, là, c'est la dèche totale. Et du coup, ils sont obligés d'accepter n'importe quel boulot dans n'importe quelle condition. Et aujourd'hui, on a les retours de ce qui s'est passé en Angleterre, de ce qui s'est passé en Espagne, en Italie, en Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même une situation caractéristique où aujourd'hui, des travailleurs qui acceptent de bosser pour 1 euro de l'heure parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils acceptent de bosser pour 1 euro de l'heure. On a déjà des histoires de concurrence, de main-d'œuvre étrangère exploitée, etc. Sur des chantiers en France. Là, on voit les conditions de travail, les conditions de stress, de précarité qui s'accentuent, les actions du travail qui augmentent. Au bout d'un moment, c'est quand qu'on arrête de taper sur nous? Ça, c'est pas à nous de le demander, maintenant, c'est à nous de l'imposer. Ensemble, on est plus fort, ensemble, on est capable de se serrer les coudes. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent nous soutenir, nous rejoindre sur les différentes occupations, ils sont les bienvenus. On invite aussi à communiquer sur les différentes grèves de festivals qu'il va pouvoir y avoir dans quelques jours, même si ceux qui sont aujourd'hui, demain, Grignan, ils sont en grève. Il y a plein de grèves aussi dans les intérims et des occupations de boîtes d'intérim depuis lundi sur l'île de France. Il y a eu une manif qui a réuni entre 130 et 150 personnes dans Roissy, dans l'aéroport de Roissy, en plein plan Vigipirate, ce qui est complètement improbable, lundi après-midi. L'Opéra d'Oignon a été occupé par les intermittents, mais aussi par la moitié de précaires, voilà, qui ne sont pas des intermittents. Maintenant, il y a des précaires qui commencent à arriver à se mobiliser. On est dans cette période critique-là, on est dans les jours un peu tendus. Et en tout cas, c'est sûr que s'ils signent, ça va être une explosion. Ça va être une explosion parce qu'on va s'en rendre compte direct. C'est-à-dire que le 30 fin juillet, les premiers, les intérimaires, les intermittents, les précaires, etc., différents salariés, on va se rendre compte sur nos revenus qu'il y a une baisse réelle. Un intérimaire, c'est entre 50 et 300 euros de baisse par mois. Voilà. Les gens, concrètement, comment ils font pour vivre avec 300 euros de moins quand aujourd'hui, ils sont déjà dans la galère?
Techniquement, alors on a beaucoup mis en avant les intermittents parce que le mouvement est visible. Il y a aussi énormément de désinformation par rapport à ce dossier. On accuse les intermittents d'être responsables d'un déficit d'un milliard d'euros. C'est ce qu'on entend en tout cas dans les médias. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
C'est très simple. Les intermittents, ils coûtent un milliard d'euros en dépenses pour l'UNEDIC. Il y a 34 milliards de dépenses pour l'UNEDIC, donc ça fait 1/34e. Il s'avère qu'on représente 1/34e des chômeurs aussi. Donc on coûte exactement en tant qu'intermittent le même prix que les chômeurs. Mais c'est que c'est aussi vrai pour les intérimaires. Ils représentent je ne sais plus combien de milliards, mais ça correspond à leur proportion. Ils sont 2 millions d'intérimaires en France aujourd'hui. Ils représentent en proportion. Simplement, calculer les intermittents juste sur les maintiens intermittents sans parler de la question de nos métiers, ce serait comme, par exemple, comparer uniquement les boulangers en CDD par rapport, sans prendre les boulangers en CDI. Aujourd'hui, moi je fais un métier qui s'appelle régisseur plateau. Régisseur plateau, régisseur de scène. Il y a des gens qui sont régisseur plateau, régisseur de scène en CDI. Il y en a qui le sont en CDD. Il s'avère que le CDD, c'est des intermittents. Voilà. Les CDI, ce qu'on appelle aujourd'hui des permanents. C'est-à-dire des gens qui cotisent à l'indemnisation chômage, mais qu'on ne compte pas, par exemple, dans la part du déficit. Qu'on ne compte pas dans cette partie-là. Et aujourd'hui, le déficit de l'UNEDIC, il est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de rentrées de cotisations que de dépenses d'indemnisation. Le reste, le delta qui se passe, c'est qu'il y a 9 milliards de frais de fonctionnement. Et 9 milliards de frais de fonctionnement, c'est vraiment problématique pour une organisation qui est censée être au service des chômeurs, etc., censée les aider à s'installer. Par contre, il y a énormément de postes de bureaucrates très hauts, bien payés, etc., de permanents des organisations syndicales signataires qui posent des questions sur le pourquoi et comment ils signent ces organisations-là. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut dégommer l'UNEDIC pour reconstruire quelque chose. On reconstruira ensemble avec tous les gens qui sont dans la lutte aujourd'hui, que ce soit la CGT, que ce soit Solidaire, Sud Solidaire, les syndicats Sud Solidaire, que ce soit la FSU sur les précaires de la fonction publique, et puis peut-être aussi des syndicats de paysans, etc., comme la Confédération paysanne, qui aujourd'hui, les petits patrons qui travaillent, artisans, etc., ils ne bénéficient de rien. Et les artistes plasticiens bénéficient de rien, les auteurs ne bénéficient de rien, ils ont juste le droit de crever la gueule ouverte. C'est ensemble qu'on va organiser ça. Et aujourd'hui, on est dans une situation où c'est tellement critique que soit on pète l'UNEDIC en ne signant pas cet accord, en la délégitimant, et en refaisant quelque chose qu'on appellera peut-être une édique, hein, mais en refaisant quelque chose qui fonctionne autrement, peut-être plus démocratique, plus légitime, etc. Soit on accepte toujours l'autoritarisme du patronat avec la corruption de certains, la corruption de fait de certains soi-disant syndicats qui sont censés soi-disant nous représenter, mais qui ne représentent personne. Aujourd'hui, dans la précarité, ils ne représentent personne. Force ouvrière, à la limite, ils avaient quelques gens, ils avaient des faux spectacles. Aujourd'hui, les gens, ils sont tous en train de se barrer de ce syndicat parce qu'ils estiment qu'ils ont été trahis.
Parce qu'autour des tables de négociation, j'insiste, mais on a le MEDEF, la CGT, la CFDT, FO.
Il y a 8 organisations. Il y en a 3 qui sont des organisations patronales, qui ont signé les 3 mêmes choses, qui sont l'UPA, qui représente grosso modo les commerçants, la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, qui ont quand même une taille conséquence parce qu'on est PME jusqu'à 499 salariés, et le MEDEF, donc les grosses entreprises, qui syndiquent principalement les entreprises du CAC 40, voilà, qui représentent. Et ces gens-là ne représentent pas la totalité des employeurs, très loin. Et par exemple, il y a d'autres syndicats d'employeurs du spectacle, par exemple, qui ne sont pas représentés. Et derrière ça, il y a les organisations soi-disant représentants des salariés qui ont été nommés là-dedans par décret, qui n'ont jamais sur une question d'élection ou quoi. Il y a donc la CGT, Force ouvrière, FO, la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFDT et la CGC qui représente les cadres. La CGC n'a pas signé non plus parce qu'eux, ils représentent réellement les cadres et les cadres perdent des intérêts sur certains types d'assurance chômage qu'ils avaient. Eux, ils n'ont pas signé. Ils représentent vraiment les cadres. Mais est-ce que ces 5 organisations sont représentatives, sachant qu'aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui existent, que ce soit des organisations syndicales autonomes ou que ce soit des organisations syndicales confédérées, type Solidaire, FSU, etc., ou du moins fédéralisées. Est-ce que c'est pas ceux-là qui sont légitimes? Et aujourd'hui, il y a plein d'assos de chômeurs, il y a plein de. Que ce soit annoncer un truc qui s'appelle la crise, que ce soit agir contre le chômage, que ce soit le Mouvement national des chômeurs précaires, que ce soit les coordinations d'intermittents et précaires, dont on fait partie, ou des fois des organisations se croisent en étant partie membre l'une de l'autre, etc., qui avons travaillé sur ce sujet, avec des parlementaires, avec des sociologues, dont un certain Mathieu Grégoire. Il faut absolument lire les travaux, c'est absolument fantastique, le travail qu'il a pu abattre pendant 11 ans. En 11 ans, et entre autres, il a publié un bouquin sur l'intermittence là, il y a quelques semaines et qui est très très bien. Et c'est ça les dossiers, c'est-à-dire que maintenant on est face à soit une logique, soit une idéologie. Et en face de nous, on a une idéologie qui est une idéologie réactionnaire qui a pour but de nous précariser plus et nous on va pas se laisser faire. Et du coup, on va utiliser les formes de structure qu'on a, qu'on est capable de s'inventer, qui est pour qu'elles soient le plus démocratiques possible, le plus efficace, et on n'a pas l'intention de lâcher le steak.
On pourrait appliquer le régime des intermittents à plein d'autres corps de métier, déjà qu'il en globalise pas mal, mais ça pourrait être la solution pour.
Bah oui, l'intermittence a été inventée pour répondre aux contrats courts. Et là, on est dans une situation de contrats courts, les intermittents, mais comme les intérimaires, il y a aussi une capacité des intérimaires à avoir une indemnisation spécifique aujourd'hui, qui est gravement remise en cause. Mais elle est remise en cause parce qu'ils ne supportent pas qu'on soit indemnisé pendant qu'on ne travaille pas, puisque ça nous contraint à ne pas accepter ça nous permet de ne pas accepter des boulots de merde payés des miettes. Et donc évidemment, nous, l'intermittence, on est pour élargir et pour réfléchir sur le long terme à une indemnisation globale de tous les travailleurs précaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 86% des contrats de travail se font en CDD et 86% des gens, donc, sont sur une situation de précarité à court terme qui est prévisible et prévue. Et donc, comment on répond à ça? Comment on répond c'est pas nous qui avons décidé d'avoir des contrats précaires. C'est le système capitaliste qui a décidé de mettre ça en place et ça arrange bien du monde. Ça permet d'avoir une certaine flexibilité, ça permet de créer encore plus de bénéfices, de n'embaucher les gens que quand on a besoin d'eux et après pouvoir les jeter. L'intermittence, c'est pas forcément la panacée non plus, mais aujourd'hui, c'est un moyen de pallier à cette précarité-là et ça peut être utilisé comme un outil. Et nous, on est pour le retour à des choses, des droits sociaux réels de ceux qui existaient avant 2003. Mais par contre, on est aussi pour revendiquer des droits pour l'ensemble des chômeurs, l'ensemble des demandeurs d'emploi, y compris ceux qui ont des droits, qui nécessiteraient d'avoir des droits spécifiques du fait de la précarité de leur poste, et que par contre ceux qui sont en le régime général puissent correspondre à un régime de solidarité envers les plus précaires, mais aussi envers les gens qui un jour seront amenés à se faire licencier si jamais il y a un licenciement, etc. Mais même là aussi, on pourrait discuter, par exemple, de la légitimité de licencier des gens alors qu'un licenciement est reconnu 5 ans après comme illégal et qu'on a envoyé la police pour protéger les gens qui ont déménagé les machines alors qu'on aurait mieux fait légalement, 5 ans après coup, on dirait qu'on aurait mieux légalement, on aurait dû envoyer la police pour protéger les grévistes de gens qui voulaient enlever les machines. Mais ça, c'est encore une exception du droit français où on fait une exception parce qu'il faut surtout pas remettre en cause la parole du patron et du gros patron, surtout quand il est gros, voilà. Et aujourd'hui on a cette situation là et on a des gouvernements qui font ils se font carpette devant les gros patrons sur lesquels les gouvernements s'essuient les pieds. Et aujourd'hui, Rebsamen est l'exemple de ça, mais c'est pas le seul. Arlo Montebourg, comme les autres membres de ce gouvernement, y compris Valls, font absolument carpette quand le MEDEF claque des doigts. Ils sont là, ils sont couchés, ils lèchent le sol. Quand on voit sur ce qui se passe sur les négociations des grosses entreprises, c'est ça. Dans les achats-ventes des grosses boîtes, ils font des suggestions, ils sont pas écoutés parce qu'ils se donnent pas les moyens. La loi d'interdiction des licenciements dont on parlait tout de suite, c'est un truc qu'il faudrait juste mettre en conformité le droit du travail avec le droit constitutionnel qui dirait qu'on ne peut pas intervenir sur quelque chose tant que ça n'a pas été jugé. Et exactement comme quand on se fait dégager par son proprio pour dégager de l'appartement, si on conteste, on va d'abord sur une logique de jugement et après, une fois que le jugement a été rendu, on peut être dégagé. Mais là, aujourd'hui, la plupart des licenciements collectifs, ils sont illégaux, mais comme ils sont illégaux a posteriori, ben, ils ont eu lieu réellement en attendant. Et les patrons, ils ne sont plus là, ils sont barrés, les entreprises ne sont plus solvables, ils sont magouillés, etc. Voire même, ils laissent des terrains pollués. Voilà. Et nous, on est pour, on est pour une continuité du revenu, une forme d'interdiction des licenciements pour tous, qui soit une forme de continuité de revenu pour les plus précaires, pour les moins précaires, etc., qui permettent que personne ne vive dans une situation d'extrême précarité, ce qui nous donnera aussi plus de force pour revendiquer aussi d'autres choses. Mais ça, ils en ont peur.
Il faudra peut-être attendre un gouvernement de gauche pour entrevoir tout ça.
Alors, est-ce qu'on est obligé d'attendre ou est-ce qu'on peut le créer nous-mêmes? C'est la grande question. Hein. Parce que moi, je pense qu'on a la capacité de la force de frappe de contester et d'être en capacité de produire. Moi, je ne suis pas pour qu'on délègue notre combat à des éventuels gouvernants qui nous sont amenés à nous trahir. Ils nous ont tous trahis jusqu'à présent. Ils nous trahissent du Front National, l'UMP, le Parti Socialiste. Dès qu'ils sont arrivés aux manettes, ils nous ont trahis. Maintenant, après, est-ce qu'on pourra pas, en même se prendre en main et nous dire, voilà, nous, on est des travailleurs comme les autres. On n'est pas des politiciens professionnels. Mais nous, on connaît la réalité du terrain. Voilà, c'est nous qui créons les richesses et on va pas se laisser faire.
Simon, tu veux rajouter quelque chose, peut-être plus spécifiquement par rapport à la lutte en ce moment? Ou si on a oublié de parler de quelque chose qui te paraîtrait essentiel?
Non, bah, c'était quand même assez clair et précis. Moi, je dirais peut-être rapidement une chose, c'est que ce que je trouve effrayant aussi dans ce qui est en train d'arriver, c'est ce cassage de la solidarité interprofessionnelle, c'est-à-dire à la fois ce qu'expliquait Simon sur le fait que, par exemple, les droits rechargeables, on cesse de cotiser les uns pour les autres, mais on est vraiment dans un truc de capitalisation, c'est-à-dire qu'on cotise pour... C'est comme si on prépare ses propres droits, on épargne un truc très très individuel, que l'intervention de Manuel Valls pour essayer de calmer le feu des intermittents la semaine dernière en proposant une sorte entre guillemets de subvention de l'État pour les annexes 8 et 10 et aussi une façon de casser cette solidarité, que en plus ce qu'il a fait était une demande du MEDEF qui avait dit très clairement, bah, si l'État pense qu'il peut y avoir des régimes privilégiés qui sont par exemple les intérimaires ou les intermittents, qu'il les finance lui-même. Et c'est ce qu'a fait Manuel Valls la semaine dernière. Enfin, c'est la proposition qu'il a faite. Et du coup, voilà, c'est une chose qui est effectivement très préoccupante, une chose pour laquelle on se bat au-delà de cet horizon de l'agrément ou pas de cet accord, qui est voilà, un premier horizon, mais même s'il est agréé, il faut que ce mouvement ait continue, parce qu'il est aussi contre le pacte de responsabilité, contre la politique d'austérité qui est menée par ce gouvernement, par l'Europe. Comme disait Simon, on peut voir déjà le résultat de cette politique, pas que sur l'assurance chômage, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Angleterre. Et du coup, il faut que ça aussi, ça puisse nous servir d'alerte et pour pouvoir se réveiller à temps, entre guillemets, pour continuer à lutter pour ces choses-là et pas uniquement rester sur cette lutte-là. Ensuite, peut-être la dernière chose qu'on a déjà dit, qu'on a redit, mais qu'on dit depuis le début du mouvement et que je pense qu'on ne remartèle jamais assez, cette lutte, elle est surmédiatisée sur les seuls intermittents parce que la capacité de se mobiliser, parce que les réseaux, parce que c'est un travail qui a aussi une dimension éminemment sociale et du coup, tout ça explique ça. Mais c'est clairement une stratégie aussi d'isoler pour diviser, d'amender, de sortir pour après diviser. Et que du coup, cette chose-là, il faut, dans nos communiqués, dans nos prises de parole, on essaye vraiment de ramener toujours ce mot d'ordre de ce que nous le défendons pour tous, et ça, c'est hyper important. De vraiment se dire que cet accord va toucher tout le monde, et que c'est une attaque en règle contre les travailleuses et les travailleurs dans leur ensemble, et à l'intérieur desquels il y a des précaires, des intérimaires, des intermittents, mais que l'attaque, elle est globale et qu'elle prend place dans une politique d'austérité qui est au moins européenne.
Merci beaucoup.
Interview.
L'interview du jour.